Chapitre 5. Retour de Tom à la maison. Tom devait arriver de bonne heure dans l'après-midi, et un autre cœur était agité, outre celui de Maggie, quand vint l'heure où l'on pouvait espérer entendre le bruit des roues. Car si Madame Taleva avait quelque force de sentiment, c'était dans son amour pour son fils. Enfin, voici le bruit attendu, rapide et léger comme un roulement de boule, et malgré le vent qui chasse les nuages, et ne respectera probablement ni boucle de cheveux ni ruban de bonnet, Madame Taleva sort de la maison et pose la main sur la tête coupable de Maggie, oubliant tous les griefs du matin. « Le voilà donc, mon cher fils. Mais que Dieu nous protège, il n'a point de col. Il l'aura perdu en chemin, je parie. Et voilà la douzaine dépareillée. » Madame Taleva restait les bras ouverts. Maggie sautait tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, tandis que Tom descendait du cabriolet et disait avec la digne retenue de son sexe peu démonstratif « Allons, Yap, allons, toi aussi tu es là ?» Cependant, il se soumit assez volontiers à être embrassé, quoique Maggie se pendît à son cou de manière à l'étrangler, pendant qu'il laissait errer ses yeux gris-bleus vers les champs, les brebis et la rivière, où il se promettait de commencer à pêcher dès le lendemain matin. Tom était un de ces garçons qui poussent partout en Angleterre et qui, à l'âge de 12 ou 13 ans, ressemble beaucoup à des oiseaux. Un garçon à cheveux bruns clairs, aux joues de crème et de rose, à la lèvre épaisse, au nez et aux sourcils indécis, à la physionomie dans laquelle il est impossible de discerner autre chose que le caractère général de l'enfance, et aussi différente que possible de celle de la pauvre Maggie, que la nature semblait avoir modelée et colorée avec l'intention la plus décidée. Mais cette même nature a la profonde ruse qui se cache sous l'apparence de la franchise. Et tandis que les gens simples s'imaginent pouvoir très bien l'interpréter, elle prépare secrètement une réfutation de leur confiante prophétie. Sous la moyenne de ces figures enfantines qu'elle semble fabriquer par grosses, elle cache quelques-unes de ses forces les plus rigides, les plus inflexibles. Quelques-uns de ses caractères les plus impossibles à modifier. Tandis que la jeune fille aux yeux noirs, expansive et rebelle, peut, après tout, devenir un être passif, comparé à cet échantillon du sexe masculin blanc et rose, aux traits encore mal formés. « Maggie, dit Tom à sa sœur en la menant confidentiellement dans un coin, dès que sa mère fut sortie pour examiner sa malle, et que la chaleur du parloir eut dissipé l'engourdissement qu'il ressentait de cette longue course en cabriolet, tu ne sais pas ce que j'ai dans ma poche. » Et il secoua la tête d'un air d'importance pour mieux éveiller en elle l'idée d'un mystère. « Non, dit Maggie, comme elle est gonflée, ce sont des billes ou des noix. » Le cœur de Maggie se serra un peu, Tom ayant toujours dit qu'il n'y avait point de plaisir à jouer avec elle à ces jeux-là. Elle y jouait si mal. « Des billes, non. J'ai échangé toutes les miennes avec les autres garçons, et les noix en coque ne sont pas bonnes pour jouer, ni gaude. Ce n'est que lorsque les noix sont vertes. « Mais regarde ça !» Et il sortit à moitié quelque chose de sa poche. « Qu'est-ce ? » dit Maggie en chuchotant. « Je ne puis rien voir qu'un peu de jaune. Ce que c'est, une neuve. Devine, Maggie. »« Oh, je ne peux pas deviner, Tom, » dit Maggie avec impatience. « Ne t'emporte pas, ou bien je ne te le dirai pas, » fit Tom, en enfonçant la main dans sa poche d'un air bien décidé. « Non, Tom, » dit Maggie d'un ton de prière, et prenant le bras qui se tenait serré contre la poche. « Je ne suis pas fâché, Tom. C'est seulement parce que je ne puis souffrir de chercher à deviner. S'il te plaît, sois bon pour moi. Fais-moi ce plaisir. » Le bras de Tom se relâcha lentement, et il dit « Bien alors, c'est une ligne à pêcher, toute neuve. Deux toutes neuves. Une pour toi, Maggie, pour toi seule. Je n'ai pas voulu m'associer avec les autres garçons pour acheter du pain d'épices afin d'économiser de l'argent. Et Gibson et Spouncer se sont battus avec moi parce que je ne voulais pas les suivre chez le pâtissier. Et voici les hameçons. Regarde ça, qu'en dis-tu? N'irons-nous pas demain pêcher vers l'étang rond? Et tu prendras toi-même tes poissons, Maggie, et tu mettras les vers et tout. Ça ne sera-t-il pas amusant? La réponse de Maggie fut de jeter les bras autour du cou de Tom et de l'embrasser, puis de tenir sa joue contre la sienne pendant qu'il détachait tranquillement une des lignes et qu'il disait, après un moment, « Ne suis-je pas un bon frère, dit, de t'avoir acheté une ligne pour toi seul? Tu sais, je pouvais ne pas l'acheter si j'avais voulu. »« Oui, tu es très bon. Je t'aime bien, Tom. » Tom avait remis la ligne dans sa poche et regardait un des hameçons avant de rien dire de plus. Et les garçons se sont battus avec moi parce que je ne voulais pas aller avec eux chez le pâtissier. Vraiment ? J'aimerais bien qu'on ne se battît pas à ton école. T'ont-ils fait du mal ? Fait du mal ? Non, dit Tom en remettant ensemble les hameçons. Il sortit alors un grand couteau de poche et en ouvrit lentement la plus grande lame qu'il regarda d'un air méditatif en frottant son doigt dessus. Puis il ajouta « J'ai laissé Spouncer avec un œil poché au contraire. C'est ce qu'il méritait pour vouloir me forcer à y aller. Je refusais de m'associer avec eux parce qu'ils voulaient m'obliger à le faire. Oh, que tu es courageux, Tom! Je crois que tu es comme Samson. Si un lion venait rugir contre moi, je crois que tu l'attaquerais, n'est-ce pas ?»« Comment est-ce qu'un lion pourrait rugir contre toi, petite niaise ? Il n'y a point de lion, excepté dans les ménageries. » »« Non, mais si nous étions dans le pays des lions, je veux dire en Afrique, où il fait très chaud, où les lions mangent les hommes, je peux te le montrer dans le livre où je l'ai lu. »« Eh bien, je prendrais un fusil et je tuerais le lion. » »« Mais si tu n'avais pas de fusil, nous pourrions être sortis, tu sais, sans y penser, justement, comme nous allons pêcher, et alors un grand lion pourrait nous courir dessus en rugissant, et nous ne pourrions nous sauver. Que ferais-tu, Tom ?» Tom s'arrêta, puis se retourna d'un air de dédain en disant « Mais le lion ne peut pas venir. À quoi sert d'en parler ?»« Mais j'aime à imaginer que cela pourrait être, » dit Maggie en le suivant. « Pense seulement un peu à ce que tu ferais, Tom. »« Oh, ne m'ennuie pas, Maggie. Tu es si ridicule. Je vais voir mes lapins. » Le cœur de Maggie commença à battre. Elle n'osa pas dire tout de suite la triste vérité. Mais elle suivit Tom, tremblante et silencieuse, quand il sortit, en cherchant comment elle pourrait lui annoncer la nouvelle, de manière à adoucir en même temps son chagrin et sa colère. Car Maggie craignait la colère de Tom par-dessus tout. C'était une colère toute différente de la sienne. « Tom, » dit-elle timidement, quand ils furent hors de la maison, « combien as-tu payé tes lapins ?»« 2 demi-couronnes et 6 pence, » dit promptement Tom. « Je crois que j'ai beaucoup plus que ça dans ma bourse d'acier là-haut. Je demanderai à maman de te le donner. »« Pourquoi ?» dit Tom. « Je n'ai pas besoin de ton argent, petite niaise. J'ai beaucoup plus d'argent que toi parce que je suis un garçon. J'ai toujours des demi-souverains et des souverains dans ma boîte de Noël. Parce que je dois être un homme, et tu n'as que des pièces de 5 shillings parce que tu n'es qu'une fille. » Mais, Tom, si maman voulait me laisser te donner 2 demi-couronnes et 6 pence de ma bourse pour mettre dans ta poche et les dépenser, tu sais, et acheter avec cela d'autres lapins. D'autres lapins? Je n'en veux pas davantage. Oh, mais Tom, ils sont morts. Tom s'arrêta subitement dans sa marche et se retourna vers Maggie. Tu as oublié de les nourrir, alors. Et Henri aussi, dit-il, ses joues prenant instantanément des couleurs qui disparurent bientôt. « Je ferai l'affaire de Henri. Je le ferai renvoyer. Et toi, Maggie, je ne t'aime plus. Tu ne viendras pas pêcher avec moi demain. Je t'ai dit d'aller voir les lapins tous les jours. » Et il se remit en marche. « Oui, mais je l'ai oublié et je n'ai pas pu l'empêcher, Tom. » Je suis bien fâché, et ses larmes coulèrent abondamment. « Tu es une méchante fille, » dit Tom sévèrement, « et je suis fâché de t'avoir acheté une ligne pour pêcher. Je ne t'aime pas. » « Oh, Tom, c'est bien cruel, » dit Maggie en sanglotant. « Je te pardonnerais, moi, si tu avais oublié quelque chose. Je ne penserai plus à ce que tu aurais fait. Je te pardonnerai et je t'aimerai. » « Oui, tu n'es qu'une sotte, toi. Mais moi, je n'oublie jamais les choses, jamais. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi, Tom. Mon cœur va se briser, » dit Maggie, sanglotant convulsivement et s'attachant au bras de Tom, sur l'épaule duquel elle appuyait sa joue mouillée. Tom s'en débarrassa, et, s'arrêtant de nouveau, lui dit d'un ton décidé « À présent, Maggie, écoute-moi. N'ai-je pas été un bon frère pour toi ?»« Oui, » dit Maggie, le menton agité par les sanglots. « N'ai-je pas pensé à ta ligne à pêcher pendant tout ce trimestre, avec l'intention de te l'acheter, et en économisant mon argent pour cela ? N'ai-je pas refusé d'aller de moitié chez le pâtissier, même que Spouncer s'est battu avec moi pour ça ?» « Oui, et moi je t'aime tant, Tom. »« Oui, mais tu es une méchante fille. Aux dernières vacances, tu as effacé la peinture de ma boîte de pastilles. Et les vacances précédentes, tu as laissé le bateau entraîner ma ligne, quand je t'avais dit d'y faire attention. Et tu as crevé avec ta tête mon cerf-volant. Tout ça pour rien. »
Mais je ne l'ai pas fait exprès, dit Maggie. Je n'ai pu l'empêcher.
Si, tu l'aurais pu, dit Tom, si tu avais pensé à ce que tu fais. Et tu es une méchante, et tu ne viendras pas pêcher avec moi demain.
Après cette terrible conclusion, Tom quitta Maggie et courut vers le moulin pour dire bonjour à Luke et se plaindre de Henry. Maggie resta immobile à sangloter pendant une ou deux minutes, puis elle se retourna, courut à la maison et monta au Galta, où elle s'assit sur le plancher, la tête appuyée contre les vieilles étagères, avec un écrasant sentiment d'infortune. Tom était revenu. Elle avait pensé qu'elle serait heureuse. Et maintenant il était si dur pour elle. À quoi bon tout le reste si Tom ne l'aimait pas? Oh, qu'il est cruel! N'avait-elle pas voulu lui donner son argent? N'avait-elle pas dit combien elle était fâchée? Elle savait qu'elle était méchante pour sa mère, mais elle ne l'avait jamais été pour Tom. Elle n'avait jamais voulu l'être pour lui. « Oh, qu'il est dur !» dit Maggie à haute voix, en sanglotant, et trouvant un plaisir désespéré dans le retentissement que produisait sa voix dans l'espace vide du Galta. Elle ne pensa nullement à battre ou à frotter sa victime. Elle était trop malheureuse pour être en colère. Qu'ils sont amers, ces chagrins de l'enfance. Alors que la peine est chose nouvelle et étrange, que l'espérance n'a pas encore des ailes pour voler par-dessus les jours et les semaines, et que l'espace d'un été à l'autre paraît incommensurable. Maggie jugea bientôt qu'elle était restée plusieurs heures dans le Galta, que ce devait être le moment du thé, et que tous le prenaient sans penser à elle. Bien, alors elle restera là, malgré sa faim. Elle se cachera derrière le réservoir, et y restera toute la nuit. Alors ils seront tous effrayés, et Tom sera fâché. Ainsi pensa Maggie dans l'orgueil de son cœur, en se glissant derrière la cuve. Mais bientôt elle recommença à pleurer à l'idée qu'on ne s'inquiétait pas de son absence. Si elle descendait vers Tom maintenant, lui pardonnerait-il? Peut-être que son père sera là et prendra son parti. Mais elle a besoin que Tom lui pardonne, parce qu'elle l'aime, et non parce que son père l'exigera. Non, elle ne descendra pas si Tom ne vient pas la chercher. Cette résolution tient fortement pendant 5 minutes d'obscurité derrière la cuve. Mais le besoin d'être aimé, ce besoin le plus violent de la nature de la pauvre Maggie, commença à lutter contre sa fierté et l'emporta bientôt. Elle sortit de sa retraite en rampant dans le crépuscule du long Galta, mais justement alors elle entendit des pas rapides sur l'escalier. Tom avait pris trop d'intérêt à sa conversation avec Luke, en faisant le tour de la propriété, en se promenant çà et là comme il lui convenait, en coupant des baguettes pour la seule raison qu'il n'en coupait pas à l'école, pour penser à Maggie et à l'effet que sa colère avait produit sur elle. Il avait voulu la punir, et la chose faite, il s'occupait d'autres objets comme toute personne pratique. Et quand il fut appelé pour le thé, son père lui dit « Eh bien, où est la petite ?» Et au même moment, Madame Tarleva dit « Où est ta petite sœur ?» tous deux ayant supposé que Tom et Maggie avaient passé ensemble toute l'après-midi. « Je ne sais pas, dit Tom. Il ne voulait pas rapporter contre Maggie, quoiqu'il fût fâché contre elle, car Tom était un garçon d'honneur. « Comment? Est-ce qu'elle ne s'est pas amusée avec toi pendant tout ce temps, dit le père? Elle ne pensait à rien d'autre qu'à ton retour à la maison. « Je ne l'ai pas vue depuis 2 heures, dit Tom en attaquant son gâteau. « Bonté du ciel, elle se sera noyée !» s'écria Madame Tarleva en se levant de sa chaise et courant à la fenêtre. « Comment as-tu pu lui laisser faire ça » ajouta-t-elle, comme une femme craintive, accusant n'importe qui de n'importe quoi. « Non, non, elle n'est pas noyée, » dit Monsieur Tarleva. « Je croirais plutôt que tu as été méchant pour elle, Tom. »« Je vous assure que non, père, » dit Tom indigné. « Je crois qu'elle est dans la maison. »« Peut-être là-haut dans le Galta, » dit Madame Tarleva, à chanter, à se parler à elle-même, et oubliant tout ce qui a rapport au repas. « Va la chercher, Tom, » dit M. Tarleva assez sèchement, sa perspicacité ou son amour paternel pour Maggie, lui faisant supposer que le garçon avait été rude pour la petite, sans quoi elle ne l'aurait pas quitté. « Et sois bon pour elle, sinon tu t'en repentiras. » Tom ne désobéissait jamais à son père, car M. Tarleva était un homme décidé, et comme il disait, ne laissez jamais mettre la main sur le fouet. Mais il sortit d'assez mauvaise grâce, emportant son morceau de gâteau, et ne comptant point mettre un terme à la punition de Maggie, qui n'était pas pire que celle qu'elle méritait. Tom, n'ayant que 14 ans, n'avait pas des principes très arrêtés en fait de grammaire et d'arithmétique, qu'il considérait en général comme des questions posées et non résolues. Mais il était déjà très positivement décidé sur un point, à savoir qu'il voulait punir tous ceux qui le méritaient, parce que s'il le méritait lui-même, il ne craindrait pas d'être puni aussi. Mais il ne le méritait jamais. Ce fut donc le pas de Tom que Maggie entendit, lorsque ce besoin d'être aimé venant de l'emporter sur sa fierté, elle allait descendre, les yeux gonflés et les cheveux en désordre, pour implorer sa pitié. Au moins son père lui passerait la main sur la tête, en disant « N'y pense plus, ma petite. » C'est un puissant dompteur que ce besoin d'amour, cette faim du cœur, aussi exigeante que cette autre faim par laquelle la nature nous force à nous soumettre au joug et change la face du monde. Mais, en reconnaissant le pas de Tom, son cœur commença à battre violemment sous le coup de cette espérance soudaine. Il s'arrêta sur le haut de l'escalier et dit « Maggie, il faut descendre. » Mais elle s'élança vers lui et se jeta à son cou en sanglotant. « Oh, Tom, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne puis le supporter. Je serai toujours sage. Je me rappellerai toujours les choses. Aime-moi, s'il te plaît, Tom. » Nous apprenons à nous dominer en vieillissant. Nous nous tenons sur la réserve quand nous ne sommes querellés. Nous nous exprimons en phrases polies, et de cette manière nous conservons une inimitié digne, montrant d'un côté notre fermeté et concentrant notre chagrin de l'autre. Dans notre conduite, nous ne nous laissons point guider par la simple impulsion qui entraîne les animaux, nos inférieurs, mais nous agissons à tous égards comme membres d'une société supérieurement civilisée. Maggie et Tom ressemblaient encore beaucoup à de jeunes animaux, et ainsi elle put appuyer sa joue contre la sienne et baiser son oreille au hasard et en sanglotant. De même, il y avait chez le garçon des cordes tendres qui s'étaient habituées à répondre à l'affection de Maggie, en sorte qu'il se conduisit avec une faiblesse tout à fait en désaccord avec sa résolution de la punir autant qu'elle le méritait. Il commença donc par lui rendre ses baisers et dit « Ne pleure plus alors, Maggie. Tiens, mange un morceau de gâteau. » Les sanglots de Maggie commencèrent à se calmer. Elle avança la bouche vers le gâteau et en mordit une bouchée. Tom en mordit aussi une pour lui tenir compagnie, et ils le mangèrent ensemble, tout en se frottant mutuellement les joues, le front et le nez, et ressemblant ainsi d'une manière humiliante à deux poneys unis d'amitié. « Allons, Maggie, descends prendre le thé, » dit enfin Tom, quand il n'y eut plus le gâteau que celui qui était en bas sur la table à manger. Ainsi finirent les chagrins de cette journée. Et le lendemain matin, Maggie, l'air radieux, sous l'ombre de son chapeau de castor, parce que Tom était bon pour elle, trottait avec sa propre ligne à pêcher d'une main et l'anse du panier de l'autre, mettant toujours les pieds par un don particulier dans les endroits les plus boueux. Elle avait dit à son frère qu'elle aimerait qu'il mît les vers à l'hameçon pour elle, quoiqu'elle acceptât ce qu'il lui dit, que les vers ne pouvaient sentir la douleur. L'opinion particulière de Tom était qu'il était assez insignifiant qu'ils la sentissent. Il connaissait ce qui concernait les vers, les poissons et le reste. Il savait quels étaient les oiseaux nuisibles, comment on tirait les verrous, et de quel côté il fallait tourner les poignées des portes. Maggie trouvait ces connaissances très étonnantes, beaucoup plus difficiles que de se rappeler ce qu'il y avait dans les livres. Elle avait presque du respect pour la supériorité de Tom, car il était la seule personne qui appela ses connaissances à elle de la bêtise et qui ne fut pas surprise de son savoir. Tom, il est vrai, trouvait que Maggie était une petite niaise. Toutes les filles étaient des niaises. Elle ne pouvait jeter une pierre de manière à atteindre un but, elle ne savait rien faire d'un couteau de poche et avait peur des grenouilles. Pourtant, il aimait beaucoup sa sœur et comptait toujours prendre soin d'elle, en faire sa ménagère et la punir quand elle se conduirait mal. Ils se dirigèrent vers l'étang rond, étang remarquable que les inondations avaient créé depuis longtemps. Personne n'en connaissait la profondeur, et c'était un mystère aussi qu'il fût parfaitement rond et si bien entouré de saules et de hauts roseaux qu'on ne pouvait voir l'eau que lorsqu'on était tout au bord. La vue de cet endroit favori augmentait toujours la bonne humeur de Tom. Il parlait à voix basse à Maggie de la manière la plus aimable, en ouvrant le panier et préparant les amorces. Il jeta la ligne à l'eau pour elle et lui mit la canne à pêche en main. Maggie pensa que probablement les petits poissons viendraient à son hameçon et les gros à celui de Tom. Mais elle avait déjà oublié tout ce qui concernait les poissons et examinait l'eau miroitante d'un air rêveur quand Tom lui dit en chuchotant fortement « Regarde, regarde, Maggie !» et il vint en courant pour l'empêcher de laisser tomber sa ligne. Maggie eut peur d'avoir, comme à l'ordinaire, fait quelque chose de mal. Mais bientôt Tom sortit sa ligne de l'eau et amena une grosse tanche qui bondit sur le gazon. Tom était animé. « Oh, Maggie, ma petite poulette, vide le panier !» Maggie n'avait pas conscience d'avoir plus de mérite que d'habitude. Mais c'était ainsi que Tom l'appela Maggie et fut content d'elle. Il n'y avait rien qui pût troubler son bonheur dans ses chuchotements et ses silences rêveurs, où elle écoutait ces légers bruits que fait le poisson en s'élevant à la surface, et le doux bruissement des saules, des roseaux et de l'eau qui, pour elle, avaient aussi leur chuchotement. Maggie pensait que ce serait un vrai paradis que de rester ainsi assise près de l'étang sans jamais être grondée. Elle ne s'apercevait nullement que le poisson mordit à sa ligne avant que Tom le lui dît. Mais elle aimait beaucoup à pêcher. Ce fut une de leurs heureuses matinées. Ils marchèrent et s'assirent ensemble sans penser que la vie pût jamais changer pour eux. Seulement, ils grandiraient et n'iraient plus à l'école. Ce serait toujours comme aux vacances. Ils vivraient constamment ensemble et s'aimeraient sans cesse. N'avait-il pas aussi le moulin avec son fracas, le grand marronnier sous lequel ils bâtissaient les maisons, leur petite rivière à eux, la Ripple, sur les bords de laquelle ils se trouvaient chez eux? Tom voyait toujours les radeaux, tandis que Maggie cueillait les têtes pourpres et emplumées des roseaux qu'elle oubliait jeter plus tard. Puis, par-dessus tout, la grande flosse, le long de laquelle ils erraient à l'aventure pour voir s'avancer la haute marée du printemps, terrible flot qui arrivait comme un monstre affamé, ou pour voir le grand frêne qui, une fois, avait gémi et s'était lamenté comme un homme. Toutes ces choses seraient toujours les mêmes pour eux. Tom pensait au grand désavantage des gens qui vivaient sur tout autre point du globe, et Maggie, quand elle lisait dans la vie du pèlerin le passage où Chrétien traversait la rivière où il n'y avait pas de pont, voyait toujours la flosse au milieu des immenses pâturages, près du grand frêne. La vie changea pour Tom et Maggie, et cependant ils n'eurent point tort de croire que les pensées et les attachements de ces premières années feraient toujours partie de leur existence. Nous aimerions moins la terre si nous n'y avions pas eu d'enfance, si nous n'y retrouvions pas à chaque printemps les mêmes fleurs, telles que nous pouvions les cueillir de nos petits doigts, tout en bégayant nos premiers mots sur le gazon, les mêmes fruits de l'églantier et de l'aubépine sur les haies d'automne, les mêmes rouges-gorges que nous appelions les oiseaux de Dieu parce qu'ils ne nuisaient point aux récoltes précieuses. Quelle nouveauté peut valoir cette douce monotonie où chaque chose est connue et aimée parce qu'on la connaît? La forêt où je me promène dans cette journée de mai, le jeune feuillage brun-jaune des chênes s'interposant entre le ciel et moi, les blanches anémones, la Véronique aux yeux bleus et le lierre rampant à mes pieds. Quel bosquet de palmiers des tropiques! Quelle fougère rare ou quelle splendide grappe de fleurs aux larges pétales pourrait jamais faire vibrer en moi des cordes aussi profondes et aussi délicates que le font ces souvenirs de la maison paternelle. Ces fleurs familières, ces chants d'oiseaux, si présents à la pensée, ce ciel avec sa pureté harmonieuse, ces prés à l'herbe touffue, chacun avec l'individualité que lui donnent les haies aux formes capricieuses, voilà ce qui constitue la langue mère de notre imagination. Ce langage chargé de tant de subtiles associations que les heures fugitives de notre enfance ont laissées après elles. Notre plaisir à voir jouer aujourd'hui les rayons du soleil sur la verte prairie doit être plus qu'une faible impression sentie par nos âmes fatiguées. C'est aussi le souvenir du soleil et des prés de notre enfance, souvenir qui vit encore en nous et transforme cette impression en une douce rêverie.